Voilà donc, bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Donc je vous rappelle que vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Une émission qui se tient par l'appui de vos témoignages, vos dénonciations, par votre volonté de vouloir apporter des changements à cette société, une société actuellement sur ses gardes, méfiante, suspendue à quatre chemins en position d'attente. La crise est énorme, les citoyens demeurent perplexes et le pouvoir, dans sa course à la direction, utilise tous les moyens, légal et illégal, pour demeurer, souhaite-t-il, éternellement dans le pouvoir. Les élections s'approchent et Jean Charest devient de plus en plus frustré. Il y a de quoi. Difficile de s'imaginer son enveloppe vide de pouvoir. En réalité, le pouvoir se détache graduellement de Jean Charest. Il ne veut plus de lui. Trop de dégâts irréparables. Les années de Jean Charest sont synonymes de collusion, corruption, crime organisé, pot de vin, financement politique illégal, blanchissement d'argent, crise sociale, contestation, mécontentement et révolte du citoyen, entêtement politique, répression et loi antidémocrate. Bref, vous pouvez voir tout ça comme une sorte de torture, pour le moins dire psychologique, affligée à la population en général. 85% de notre population croit, à titre d'exemple simplement, que la corruption entre les élus et les entreprises privées est un problème répandu, énorme. Problème qui ébranle les piliers de la politique actuelle. Et celles et ceux qui croient à une quelconque efficacité de la commission Charbonneau rêvent en couleur. En réalité, il s'agit d'une gigantesque gangrène enracinée dans le silence des hommes politiques. Et le seul moyen de parvenir à sauver le reste, selon des spécialistes de la scène, c'est celui d'extraire complètement la partie atteinte. Évidemment, c'est toute la partie dirigeante au pouvoir qu'il faut extraire. Débutons bien sûr par Jean Charest, le chef suprême de cette vague dévastatrice. Il ne faut surtout pas se laisser duper par les tentatives de celui-ci, donc il ne faut pas se laisser manipuler par des offres et des promesses mensongères. Dans notre société actuelle, le centre de l'enjeu social, c'est l'avenir des citoyens. Ce n'est pas la course pour remplir les coffres de l'État qui souffre, c'est plutôt le citoyen qui il a perdu beaucoup de terrain, beaucoup d'espace, beaucoup de ses droits. Commençons peut-être par celui du respect et la dignité. Une souffrance qui s'affiche, c'est un cas prolongé en où le même gouvernement actuel prolonge son mandat. Le citoyen est épuisé, il se sent coincé entre les uns et entre aussi les enjeux de pouvoir manipulés au centre de tout ça. Donc il cherche délibérément une sorte de secours, un changement, un espace pour mieux respirer. C'est l'attente de l'espoir de la délivrance. Je vais d'ailleurs vous présenter dans cette émission un épisode de l'abus de pouvoir, un autre témoignage d'une victime qui avait la malchance de tomber encore entre les mains d'un abuseur de ce pouvoir. Un pouvoir malmené depuis quelque temps. Une victime que j'ai rencontrée cette semaine, et je vous laisse bien sûr l'entendre, la voir si vous voulez, à quel point la sécurité même du citoyen au Québec est en péril. Nous allons tous entendre, et après 2 ans de défilé, puisque notre émission justement existe depuis 2 ans, pendant 2 ans nous avons défilé un nombre impressionnant de victimes, non pas des victimes de la route, des victimes de l'abus de l'autorité. 2 ans pour vous dire que la situation est toujours pareille, semblable. Par moments, l'escalade augmente et le chiffre des victimes augmente avec. Je sais aussi que vous allez être surpris d'entendre le mot « torture » aujourd'hui. Vous allez probablement dire que le mot n'est pas approprié à notre société, alors je vous dis, détrompez-vous. La torture, ce mot qui nous ramène à des époques archaïques et de mots de notre société, la torture qui a été justifiée dans des époques lointaines pour rechercher la preuve criminelle, on parle de l'aveu ou de la dénonciation de complices. Ce traitement cruel vers les humains existe ici au Québec. Il est pratiqué par certains agents de la SPVM. Chères auditrices, chers auditeurs, imaginez-vous dans une société dite société de droit et de justice, société de respect, de liberté, d'égalité, on découvre l'existence de la torture toute crue. Je ne parle pas évidemment de cette torture exercée par le pouvoir actuel envers l'ensemble des citoyens. La manipulation est une sorte de torture, bien sûr, qui affiche ses effets graduellement, notamment par l'éveil et la prise de conscience des citoyens. Mais je parle de ce traitement cruel vers l'individu, infligé à une personne systématiquement une douleur, une souffrance déterminée, une douleur qui se termine par l'effondrement physique et psychologique de la victime. Et encore loin, la torture dépasse aussi largement le moment et le lieu. Elle peut même grandir la blessure par le temps et devenir un handicap à vie. Donc, je ne vous cache pas, j'assiste beaucoup dans les séances de réconciliation où j'accompagne des victimes d'actes d'abus de pouvoir, principalement de la part des policiers. Et chaque fois, je constate cet impact considérable de la torture psychologique ou physique sur la personne victime. Je constate pendant les rencontres et l'accompagnement la gravité des dégâts sur la personne victime. C'est toute la structure psychologique et sociale de la victime qui s'écroule dans la plupart des cas. Il s'agit justement d'un traumatisme en perpétuité. Et ce n'est pas tout le monde qui a des mécanismes de défense aussi solides pour diminuer l'impact de l'agression, de l'abus de pouvoir. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à dépasser la force destructive de l'humiliation. Je parle de l'humiliation. Vous voyez, nous sommes rendus à ce stade aussi dégradant qu'il est. C'est parce que quelque part, quelqu'un ne fait pas son travail comme il faut, ou plutôt quelqu'un qui a accordé des pouvoirs démesurés aux forces de l'autorité. C'est quelqu'un qui ferme les yeux et décrète la loi de l'impunité en échange à ses intérêts personnels. C'est la faute de quelqu'un qui a fait la sourde oreille au gémissement des personnes vulnérables. C'est quelque part la faute de quelqu'un qui reste indifférent à la demande alarmante de la société civile. La victime de ce matin, chère auditrice, chère auditeur, n'a rien, absolument rien, sinon elle est atteinte d'un cancer généralisé. Qui le rappelle heureusement qu'elle va mourir bientôt. Je vous invite d'écouter son témoignage. Elle a souhaité publiquement dénoncer la torture exercée par certains agents de service de la SPVM. Alors je vous inviterai à demeurer à l'écoute. Au micro avec vous ce matin, Adj Zitouni, président du mouvement Action Justice, c'est un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance de nos institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer les abus de pouvoir. Avec moi, comme d'habitude, de mon collègue Roland Cazès, il commentera le témoignage de la victime et nous parlera peut-être rapidement de cette annonce du début de la campagne électorale de Jean Charest. Avant de céder le micro à Jean Ferrat et le thème de notre émission, je vous rappelle que vous pouvez en tout moment participer à notre émission en dénonçant l'abus de pouvoir, l'injustice dans notre société, une manière comme d'autres pour faire notre part de citoyen. Ainsi à l'écoute, chers auditrices, chers auditeurs, nous reviendrons avec vous après quelques instants de musique.
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. tranches de vie saignantes que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la une. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déporté. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Alors voilà, chers auditeurs, chers auditeurs, on va maintenant directement écouter le témoignage de notre victime de ce matin. Restez à l'écoute, voilà. Alors voilà, bonjour Madame Rangé-Catherine.
Oui, bonjour. Oui.
Bonjour Monsieur Roméo
oui,
Jeté.
C'est ça.
Vous êtes le père
adoptif
de Madame Catherine.
Pascal.
Ben voilà, nous sommes aujourd'hui chez vous. Vous nous avez invité de venir vous pour entendre votre témoignage.
Exact.
Est-ce que je peux savoir, vous habitez ici, vous êtes à Montréal, combien d'années?
Un an et demi.
Depuis un an et demi. Vous habitez ici, avant, vous habitez où?
J'ai toujours resté à Montréal, toujours resté à Montréal.
Votre vie, oui.
Mais dans mon nouveau logement, ça fait un an et demi que je demeure ici.
Ah, merci au Schlager.
Oui.
Merci au Schlager. Vous avez quel âge?
53 ans.
Vous avez 53 ans. Vous m'avez dit aussi, vous êtes devant moi, je vous vois, vous n'avez pas l'air d'être en très bonne santé non plus.
Non, je suis malade.
Vous êtes malade?
Oui.
Est-ce qu'on dit que vous êtes malade ou vous êtes très malade?
Très malade.
Très malade. Vous souffrez, vous...
Le cancer.
Vous avez le cancer
ouais.
Généralisé.
Oui.
Cancer généralisé. C'est, j'imagine que c'est très dur pour le psychique
ouais.
Et tout.
Oui, très dur pour le moral.
Oui. Et vous êtes quand même, d'un autre côté, vous avez votre père qui est en face de moi, M. Roméo Jeté.
Ouais.
Vous, M. Roméo Jeté, vous avez décidé de rester avec votre fille?
Oui.
Parce qu'elle a besoin de l'aide?
C'est ça.
OK.
Parce que... On a demandé de l'aide à CLSC
oui.
Pour m'aider quand mes déplacements pour aller faire les commissions,
oui.
Aller à la caisse. Et les autres, ils nous donnaient 3 heures une fois par semaine. Ils nous ont donné une fois. Après ça, ils ont coupé complètement.
Oui.
Ils ont coupé ils ont coupé l'aide
oui.
Après. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit OK, moi, je vais m'occuper de ça tout seul. Je m'en ai occupé, puis je continue encore.
Quel âge avez-vous, monsieur?
79.
79, 80 presque.
Oui.
Et vous consacrez votre vie pour venir en aide à votre fille.
C'est ça.
C'est ça. Ben, bravo, c'est ce que je peux vous dire quand même. Mm-hmm. Maintenant, revenons maintenant à vous, madame. Vous avez choisi d'habiter ici à Mercier-Hochelaga. Pourquoi? Vous cherchez un appartement, c'est ça?
OK, parce que avant, OK, je restais dans un HLM.
OK.
OK.
Et vous avez souhaité déménager, c'est ça?
Oui, parce que puisque j'ai resté avant dans un HLM, donc j'avais beaucoup de problèmes.
Oui.
Là, mon père adoptif m'a dit, il dit, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, si on prendrait un logement normal, qu'on appelle entre guillemets,
oui,
j'ai dit, moi, ça me dérange pas.
Okay.
Là, on a pris un logement normal, mais oui. Là, c'est
alors
la même chose.
Alors, vous habitez ici dans un logement où vous payez le frais, vous payez le coût complet, c'est ça?
C'est ça.
Et vous arrivez ici, et qu'est-ce que vous avez demandé au propriétaire quand vous êtes rendu ici?
OK, quand je suis venu visiter, OK, j'ai demandé au propriétaire, si c'était tranquille.
La première chose que vous avez demandé, la tranquillité, la paix, c'est
ouais,
ça?
Oui, oui.
Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? répondu le propriétaire?
OK. Le propriétaire, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il dit, Mme Rangé, il dit, c'est très tranquille. Bon, la madame à côté, il n'y a pas de problème. Puis là, okay. Moi, j'ai mentionné, parce que je veux être sûre que c'est tranquille, parce que je suis malade.
Vous l'avez dit que vous êtes malade?
Oui.
Que vous avez le cancer généralisé?
Exact, je l'ai mentionné.
Vous avez mentionné?
Oui.
Donc, il savait?
Oui.
OK. Et il vous a dit que c'était très tranquille?
Exact.
Et vous avez la paix ici?
Oui.
Et vous, finalement, vous cherchez, tout ce que vous cherchez, c'est avoir un coin, une place où vous allez avoir la paix. Vous voulez vraiment se reposer, c'est
exactement.
Ça?
Exactement.
Et vous découvrez, si j'ai bien compris, plus tard, que c'était pas vrai?
Non, il m'a menti.
Il a menti. C'était quoi le problème? Ça a commencé comment le problème?
Mais le problème, c'est...
C'était les voisins.
La voisine à côté.
La voisine à côté.
Bon, oui. Elle a des problèmes de drogue.
Oui, oui.
Elle m'empêche de m'asseoir sur le balcon avant. Donc, parce qu'elle dit que c'est son balcon.
Oui. C'est un balcon partagé, hein? Vous avez un balcon...
On appelle ça un balcon communautaire.
Communautaire, c'est
ouais,
ça.
Ouais.
Alors, elle vous interdit de s'asseoir sur votre balcon.
Oui, parce qu'elle dit que c'est son balcon.
OK. Et vous avez fait quand même, vous avez appelé le propriétaire, j'imagine, pour savoir est-ce que vous pouvez s'asseoir sur votre balcon ou non?
Oui, j'ai demandé, j'ai dit à M. Jean, j'ai dit, j'aimerais ça, il m'asseoir sur mon balcon.
Oui.
Il dit, Mme Rangé, il dit, 15 minutes sur le balcon.
Le propriétaire, il vous dit que vous avez 15 minutes par jour.
Pour m'asseoir sur mon balcon.
Sur balcon. Pas plus que ça.
Ben moi, j'ai dit, c'est pas 15 minutes que je veux, là. Au moins la moitié de la journée.
Vous pouvez pas prendre de l'air, non? Vous n'avez pas le droit de prendre de l'air sur votre balcon. Monsieur, oui?
OK. À ce moment-là, le propriétaire, quand il a dit 15 minutes,
oui.
Il nous a dit, pouvez vous asseoir en arrière. Au lieu de vous asseoir en avant, vous pouvez vous asseoir en arrière.
Oui.
J'ai expliqué que ça n'a pas le droit au soleil.
OK.
Là, on avait un petit parasol normal pour l'appui.
Oui.
C'est obligé d'installer sur la chaise qui est là dans le moment.
Oui.
J'ai acheté un gros parasol du monsieur de l'autre côté.
Oui.
Parce qu'il est sûr qu'il avait son garage ouvert. Je suis allé le voir. Je l'ai acheté. Je l'ai posé en arrière.
Oui.
Parce qu'elle n'a pas le droit de s'asseoir en avant. Puis, une autre chose que je veux mentionner.
Oui.
Les derniers policiers qui sont venus ici.
Avant d'arriver au policier, ils ne sont pas rendus au policier maintenant. Je veux savoir... donc, il vous demande de ne pas s'asseoir. Est-ce que dans le bail, quand vous avez signé un bail, est-ce qu'il est marqué comme quoi vous avez 15 minutes s'asseoir sur le balcon?
Non.
C'est pas mentionné.
Non, aucunement.
Ok, parfait. Donc, vous avez eu des problèmes avec votre voisine. Ça a commencé par. Il y a beaucoup de bruit, il y a de va-et-vient. Qu'est-ce qu'il y a dans.
Non, c'est pas la question de ça, c'est la question d'argent, ou sa drogue.
OK, elle vient, elle a connu chez vous pour vous demander de l'argent.
C'est ça, c'est
ça. Vous l'avez prêté la première fois?
Oui.
Vous l'avez prêté de l'argent la première fois?
Oui. Mais elle m'a dit que c'était pour manger.
Elle a dit qu'elle n'avait pas d'argent pour manger.
C'est ça qu'elle m'a dit.
Et vous l'avez donné de l'argent?
Oui. Mais avant de passer le 20 $, j'ai demandé quand tu vas me le remettre. Elle a dit, même que j'ai mon chèque d'assistance sociale,
okay.
Je vais te le redonner.
OK.
Bon, elle a tenu parole, elle me l'a redonné.
Elle va retourner votre argent.
Bon,
c'est bien.
Elle m'a redonné mon argent.
Le problème, c'est plus tard, elle est revenue pour vous demander aussi.
Un autre 20 $.
Okay.
Mais là, vu que j'ai refusé, là, et madame, bon, était toute souriante.
Vous avez refusé parce que vous-même, vous n'avez pas assez d'argent.
Ben non.
OK. Donc, une question de 20 $, hein. Donc,
c'est ça.
Vous avez refusé, et c'est à partir de là qu'elle était...
Frustrée. Donc, elle est venue tout enragée, tout ça.
Elle n'a pas aimé que vous disiez non.
Non, parce que moi, OK, j'ai écrit, j'ai dit, écoute une minute, j'ai dit, moi, j'ai pas beaucoup d'argent.
Oui.
Bon. Mon chien, il faut qu'il mange. Nous autres, il faut qu'on mange. On a un loyer à payer. On a le compte de téléphone à payer. Le compte d'électricité.
Je n'ai pas d'argent, c'est tout. Oui, je n'ai pas assez.
Mais elle a refusé. Mm-hmm. Madame a claqué sa porte. Je pensais que tu étais mon ami. Puis, tu sais, tu m'as mis un poignard dans le dos. Puis...
Et un poignard dans le dos. Mais à partir de ce jour-là, elle a commencé vraiment à tout faire pour vous.
Oui. Comme on dit en canadien français, elle a fait de la merde.
Oui. Alors, ça, c'est les problèmes qui ont commencé. Et j'imagine, à un moment donné, vous avez appelé la police, c'est ça?
Oui.
Non,
ouais.
Vous avez fait affaire à la police. Vous avez appelé la police la première fois.
Oui.
La police sont venus vous voir.
Ouais.
Qu'est-ce qu'ils ont fait, les policiers? Vous avez expliqué comme quoi vous n'arrivez pas à être bien, vous n'avez pas la paix chez vous, vous avez des problèmes avec cette femme-là.
C'est ça.
Vous avez demandé qu'elle cesse de vous déranger, c'est ça?
Exactement. Mais ils sont venus la première fois le 24 septembre, l'année passée.
2011, oui.
Oui, je m'en souviens parce que c'est la date de mon anniversaire.
Oui.
je m'en souviens.
Et est-ce que ça a été réglé le problème ou non? Le problème a été réglé ou non?
Ben, les policiers ils sont venus, ça n'a pas été long. Bon, puis là, ils ont été parler à madame à côté. Bon, ouais. Parce que moi, je ne l'achète pas, je ne parle pas.
C'est pas grave. Alors, il y avait aussi, j'imagine, une deuxième fois, les policiers sont
venus. 37 ans.
37 ans, une deuxième fois, les policiers sont revenus.
Ouais.
Vous avez fait un appel à la police.
Oui, c'est toujours moi qui fais
les
appels.
Les policiers viennent quand même, ils interviennent.
Ouais.
Ils vont parler avec votre voisine, si j'ai bien compris.
Bien sûr.
Et puis, ils donnent un avertissement.
Non, mais
j'imagine, parce qu'elle vous a laissé tranquille quand même quelques jours après aussi, non?
Oui, mais pas laissé tranquille longtemps,
jours.
Alors.
Combien?
6 jours. Alors, le 24 au 36 jours.
Oui, mais le 30 aussi, c'était la même chose?
La même chose.
Ben ouais. Parce que le 30, lui, il n'était pas ici. OK, il n'était pas ici. Moi, je suis sortie, elle est sortie de mon chien.
Oui.
Je suis venue là, quand j'ai descendu, je suis rendue quasiment au coin. Là, j'ai vu la madame sortir.
Oui.
Là. Là, je dis peut-être qu'elle s'en va chercher un lunch, mais là, je m'ai fait pogner en queue de poisson, si vous permettez l'expression. Là.
Ouais.
Donc, là, elle me suivait tout ça, et puis elle me barrait toujours de chemin, mais j'étais avec mon chien.
Ça, c'est la troisième fois.
Oui, la troisième fois.
Ouais. Et là, vous avez appelé la police aussi.
Oui, j'ai toujours appelé la police.
OK, vous avez toujours fait affaire avec la police.
Parce que c'est eux autres qui m'ont dit, il y a quoi que ce soit, Mme Rangier, vous nous appelez.
Parfait, c'est très bien, vous avez bien fait. Et vous avez appelé encore le propriétaire pour se plaindre,
oui,
j'imagine?
Oui, exact. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui a fait que la dernière fois, les policiers sont venus vous voir?
Vous l'avez dit le 29?
Oui, le 29
de juin.
Juin.
OK, le 29 de juin, bon, j'étais à la place de Versailles pour une petite commission, comme d'habitude, bon, avec une dame que je connais. Bon, elle a 85 ans, cette dame-là, elle est très gentille. Bon, là, je vais faire mes commissions. Là, je reviens chez nous à la maison à 2 heures dans l'après-midi. Là, je défais mes sacs. Bon, mon père, il me donne un coup de main. Bon. Fait que là, après, ben, je vais faire une assiette, comme d'habitude.
Tu vas poser, oui.
Parce que c'est recommandé par mon médecin.
Bon. Oui.
Fait que là, après, je me lève tout ça. Fait que là, je m'assieds en arrière avec mon père. On parle. Bon. Puis là, c'est quasiment l'heure du souper. Fait que là, on souffre. Bon. Fait que là, quand j'ai fini de souper, le téléphone sonne. Bon. Il la police. Bon.
Si la police sont venus, ils ont appelé.
Oui, ils m'ont appelé. Puis là, ils ont dit, là, on s'en va chez vous. Là, dites à votre père là, qu'il sort et que vous soyez tout seul.
Alors, la police vous appelle, il vous demande que votre père quitte la maison,
c'est ça.
Le logement,
c'est ça.
Et que vous restiez toute seule.
Exactement.
Parce que eux, ils viennent vous voir.
C'est ça.
Excellent. Attends, on va juste faire une petite pause, madame, et on va reprendre, OK?
Parfait.
Merci. Alors, chers auditeurs, chers auditeurs, avant de passer cette pause, une petite pause musicale, vous avez vu, vous avez entendu peut-être aussi, ça c'est une partie de la vie, des quotidiens de certains citoyens qui vivent ici au Québec. Alors que nous ne sommes pas encore arrivés au nœud de l'histoire, alors je vous inviterai maintenant d'écouter la deuxième partie de mon entrevue avec cette victime. Alors voilà, rebonjour Madame Rongier.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Alors je vais juste reprendre votre témoignage aussi. Les policiers vous ont appelé.
Exact.
Le 29 juin.
Exact.
2012, pour vous dire, on va venir vous voir.
Exact.
Mais on demande que votre père ne sera pas là.
Exactement.
Est-ce que ça? Qu'est-ce que vous avez répondu quand ils vous ont dit ça?
Ben moi, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, pourquoi que mon père ne peut pas rester? Il dit là, il dit, il ne peut pas rester, il faut qu'il quitte. Bon. Parce que là, on s'en vient vous chercher, puis on vous amène au centre opérationnel, parce que votre propriétaire nous a appelé pour dire...
OK. Mais à propos de votre père, est-ce que monsieur j'étais... les fois que les policiers sont déplacés chez vous ici, est-ce que vous étiez toujours présent ou non?
Jamais. Ils m'ont toujours obligé de quitter les lieux.
Chaque fois que les policiers, même si votre fille, elle appelle pour l'aide, elle demande de l'aide aux policiers, les policiers vous demandent de quitter.
Oui.
Et ils sont venus ici, vous ont demandé de sortir d'ici.
Oui, oui.
Et vous habitez ici.
Oui.
Et vous êtes le soutien de votre fille.
Oui.
Alors voilà, comment on arrive à expliquer tout ça? Et cette journée-là, madame, quand ils vous ont appelé, est-ce que vous avez insisté que votre père reste?
Oui, ils m'ont dit, il n'y en a pas question, c'est hors de question.
Il vous avait dit quoi? Vous avez dit qu'il avait besoin de lui ou vous avez dit quoi?
Non, ben moi j'ai dit, j'aimerais sûr s'il pourrait venir avec moi au centre opérationnel.
Non, mais avant d'aller, parce qu'eux, ils vous ont demandé, même avant de vous mentionner comme quoi vous allez aller au centre opérationnel, ils vous ont demandé, quand on arrive sur le lieu, on ne veut pas le voir.
Non.
C'est ça?
Votre
pas qu'il quitte.
C'est exactement, en plein ça.
Et vous avez, ce que vous m'avez dit, parce que si je ne me trompe pas, à un moment donné, vous m'avez dit que j'aurais aimé que mon père reste parce que c'est un soutien pour moi.
Exactement, c'est vrai.
Vous vous sentez en sécurité avec votre père.
Oui, oui, oui.
Et vous aurez aimé, vous avez souhaité que votre père, quand les policiers ils étaient là, chez vous, que exact. Votre père était présent.
Exact.
Ce n'était pas le cas.
Non.
Bravo. Donc, les policiers sont venus chez vous.
Oui.
Qu'est-ce qui est arrivé, madame? Votre père a quitté d'ailleurs, c'est ça? Votre père était obligé de partir, il a quitté les lieux.
Oui, oui, il a quitté les lieux.
Quand les policiers sont arrivés, votre père n'était pas là.
Non, non.
Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé, madame?
Ok, eux autres, les policiers, okay, ils sont venus, bon, ils ont cherché, ils ont sonné, bon, ok.
Là, ils ouvrent la porte, vous rentrez, oui.
Bon, ok, là, ils rentrent sur ça, fait que là, ils me disent à moi, ils disent, prenez votre sac à main, puis ils disent, on vous emmène, mais à part de ça, ils m'ont mis les bracelets qu'on appelle. J'avais
tellement. Ils ont mis les menottes?
Oui, oui, oui.
Vous avez mis les menottes?
Oui, oui, vous avez
ça. Ils savaient que vous étiez malade et tout? Avez...
Oui, mais les autres, ils n'ont pas de pitié pour ça, là. Ouais. Malade, pas malade, là.
OK.
Là, ils m'emmènent au centre, au
parc. Mais est-ce qu'ils vous ont dit que vous êtes en état d'arrestation, madame?
Non.
Ils vous ont jamais dit que vous êtes en état d'arrestation?
Non, la seule chose qu'ils m'ont dit, que quand ils m'ont laissé partir, je vais recevoir des papiers par la poste.
Non, non, mais quand ils sont rentrés chez vous ici, est-ce qu'ils vous ont dit, madame Rongé, vous êtes en état d'arrestation?
Non.
Ils vous ont jamais dit. Ils n'ont pas lu vos droits, rien du tout.
Rien, zéro.
Ils rentrent, ils vous ont mis les menottes, out.
C'est ça.
OK. Excellent. Donc, ils vous ont conduit où, madame?
Au centre opérationnel, à Saint-Léonard.
Est-ce que c'est là-bas qu'ils vous ont dit quelles sont les charges qu'ils sont retenues? Est-ce que quand ils sont venus à la maison chez vous, à l'arrestation, est-ce qu'ils vous ont dit les charges qu'ils étaient contre vous?
Non.
Aucun, rien.
Non, zéro.
Ils vous prennent, ils vous amènent directement
au
centre opérationnel, sud, c'est ça?
Exact.
Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui est arrivé là-bas, madame?
Ok, quand je suis arrivé là-bas, ben là, ils m'ont enlevé les menottes.
Ils ont enlevé les menottes là-bas, ils vont arriver là-bas. Est-ce que vous avez demandé pourquoi vous m'arrêtez? Pourquoi je suis avec vous? Avez-vous demandé?
Oui, j'ai posé
À quel moment vous avez posé la question?
J'ai posé des questions. Il a quel droit que vous faites ça?
Est-ce que vous avez posé la question au moment de trajet, dans quand vous partez, ou vous êtes rendu là-bas?
Rendu là-bas. Je n'ai pas parlé au trajet.
Ok. Pourquoi vous n'avez pas demandé au trajet? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous m'avez ramené? Pourquoi vous n'avez pas posé la question?
Eux autres, ils m'ont dit parce que le propriétaire avait appelé, que moi, j'avais fait des menaces à la voisine à côté.
Pour des menaces.
C'est complètement faux.
Oui.
Complètement faux.
Mais alors, quand vous êtes une fois rendu au poste opérationnel, c'est là qu'ils vous ont dit que votre voisine, elle a fait une plainte contre vous, comme quoi vous avez fait une menace?
Non, c'est le propriétaire.
Ils vous ont dit que c'est le propriétaire qui a fait des menaces?
Oui.
C'est ça?
C'est complètement faux. Parce que comme j'ai expliqué tantôt, je sais que je me répète souvent.
Bon, c'est pas grave, moi, c'est aussi.
OK. Parce que c'est le contraire. C'est elle qui me fait des menaces. Moi, j'ai...
Parce que on a bien compris que vous avez quand même appelé 4 fois
exact,
à la police pour demander de l'aide.
Ouais,
et vous avez expliqué qu'elle vous dérange, qu'elle vous avez des problèmes avec elle et tout.
Oui, beaucoup de problèmes.
Beaucoup de problèmes. Et cette fois-là, mais elle n'a jamais été conduite au poste opérationnel.
Jamais.
Aucune arrestation.
Aucun.
Mais dans votre cas, vous, est-ce que c'est la première plainte qu'elle a fait, elle?
Pardon?
Est-ce que c'est sa première plainte qu'elle a fait?
Elle?
Oui.
Les plaintes, c'est toujours moi qui les ai faites.
Oui, je comprends, mais cette fois-là, quand elle a fait la plainte, quand vous étiez arrêté, est-ce que c'est la première plainte qu'elle a fait?
C'est le propriétaire.
Contre vous?
Elle n'a jamais fait de plainte. C'est le propriétaire qui a appelé les policiers.
Mais pourquoi le propriétaire, il a appelé les policiers? Vous n'avez rien contre le propriétaire?
Non, mais le propriétaire, il a appelé les policiers.
C'est lui qui a appelé les policiers?
Oui, oui, en disant que c'est moi. Bon, que j'étais pour aller la tuer, c'est complètement faux. C'est ridicule de dire ça.
Non,
oui. Dis les vraies choses. C'est oui, c'est non, c'est non.
Oui.
Pourquoi monter un bateau comme ça, là?
Oui.
Moi, j'ai pas envie d'être dans la merde, là. Excusez-nous, là.
Oui. Donc, le propriétaire, il a informé le policier comme quoi vous avez voulu tuer la dame.
Exactement.
OK, je comprends.
Okay. Puis quand j'étais dans le bureau,
Okay,
le policier, il est à grain, il lui respire. Ça, je le sais.
Oui.
Bon, fait que là, évidemment, il dit, Madame Rangé, là, bon, il dit, bon, dites-nous donc, là, bon, la vérité, là.
C'est ça.
Bon.
C'est une interrogation, interrogatoire.
C'est ça.
Il vous demande maintenant, vous êtes au poste opérationnel le Sud.
C'est ça.
Et vous êtes devant un enquêteur. Connaissez-vous le nom de l'enquêteur?
Non.
Non. Alors là, il vous dit, vous allez nous dire, est-ce que vous avez fait des menaces, c'est ça? Il vous a demandé de dire la vérité.
Oui, ben moi j'ai dit, écoutez une minute, j'ai dit, mon propriétaire, qu'est-ce qu'il a dit? C'est complètement faux, je n'ai jamais dit ça. T'sais? Puis là, le policier, il m'a dit, celui qui m'a rassuré, il dit, d'une manière ou d'une autre, il dit, on va trouver le moyen de vous faire parler. Et c'est là, je n'étais pas pour lui dire c'est vrai quand c'est complètement faux.
Vous l'avez simplement dit que c'est pas vrai, je n'ai jamais dit ça.
Il voulait que je dise que c'est vrai.
Mais vous l'avez dit, je n'ai jamais
J'ai dit au moins deux, trois fois. Bon. Ouais. Et de toute façon, il dit vous ne voulez pas parler, on va vous faire parler. Là, il a sorti sa matraque, là, bang, 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 bang.
Il a sorti sa matraque?
Oui, oui.
Ça, c'est le policier.
Oui, oui.
Et il vous a frappé?
Oui.
Sur la jambe, c'est le bleu que je vois devant moi.
Ouais.
Alors, juste pour dire, chère auditrice, chère auditeur, devant moi, je suis en face de madame et je vois, j'observe toute sa cuisse, elle est bleue et aussi les mollets et on voit aussi des traces de matraque là. Et madame, combien de coups vous a donné?
4-5 coups.
4-5 coups.
Ouais.
Assez fort parce que
ouais,
je vois
ouais, assez fort. Il y a encore des marques.
Mais vous avez crié, vous avez pleuré, vous avez...
Oui, oui, ben j'ai dit arrêtez, là, j'ai dit...
Vous demandez d'arrêter, de frapper?
Oh, j'ai dit d'arrêter, il me dit, tant que je ne perdrai pas, il va continuer à battre et à battre.
Non. Il a dit, tant que, si vous ne parlez pas, si vous n'allez pas dire...
Moi, il aurait voulu que j'aurais dit, là, la même chose que le propriétaire, c'est complètement faux. Là, j'ai dit, arrêtez, là, tu sais,
ça Madame, le policier ou l'enquêteur dans ce dossier, il vous a battu pour dire oui.
Et puis, lui, il voulait que je dise oui. Bon, j'ai pas d'affaire à dire oui. C'est complètement faux. Moi, je suis malade. Je veux pas me faire achaler. Ça m'a mis aux yeux.
Mais est-ce qu'il vous a pas dit, vous avez le droit de ne pas dire un mot?
Non, il n'y a rien de ça.
Il vous a dit au contraire. Il faut que si vous ne parlez pas, je vais continuer à vous battre.
Exact. Puis ça fait mal en tabarouette.
Oui, monsieur Jeté, ça fait mal, mais je vois, c'est le bleu devant moi, madame, ça fait mal. Ça va vous fait trop mal?
Mais là, mon médecin de famille, il dit, je vais en arriver encore pour 15 jours, comme ça.
Là, mais là, ce qui arrive...
Oui, c'est le père, monsieur Jeté, qui parle, oui.
OK, le matin, j'ai acheté une canne 4 pattes, elle est ici dans la chambre.
Oui, oui.
Faut qu'elle la porte au moins une heure, parce que le médecin, il veut pas qu'elle s'habitue pour donner de la force à sa jambe.
Oui.
Parce que son cancer, c'est du côté gauche, elle a été tabassée du côté gauche.
Oui, oui, c'est ça, je le vois, oui.
OK.
C'est droite.
C'est le côté droit, je veux dire. Fait que c'est ça. Mais moi, là, quand j'ai vu ça, là, quand j'ai parti à pleurer, moi, là, elle va la manger comme ça. Là.
Mais monsieur Jeté, vous êtes son père. Avant elle, qu'elle s'en va au poste, que les policiers l'ont conduit, est-ce que son jambe a été comme ça?
Jamais.
Non.
Jamais.
Jamais.
Est-ce que vous l'avez constaté quand elle est retournée du poste?
Quand je suis arrivé ici, là, parce que moi, j'étais absent, elle m'a appelé, j'ai dit, quand tu arriveras à la maison, parce qu'il m'avait dit de quitter le lieu. Elle m'a rappelé, elle est partie à pleurer, viens voir ce qu'ils m'ont fait. J'ai arrivé ici. Là, j'ai vu ça, j'ai parti à pleurer.
Tu as commencé à pleurer?
Éclaté.
Oui.
Parce que si j'avais mis les fleurs six pieds, je pense que j'aurais fait quelque chose, j'aurais pas dû faire.
Ben, comment le cas de votre fille? Je vous comprends, mais ça fait mal au cœur. Mais madame, je veux savoir, quand ils vous ont battu, le policier vous a donné des coups comme ça, des coups assez violents pour avoir ces traces-là, est-ce que vous avez dit quoi? Est-ce que vous avez dit oui, j'ai fait ça, ou j'ai dit, ou vous n'avez rien fait? J'ai rien dit.
Je n'ai rien dit.
Parce que vous avez...
La seule chose que j'ai dit, bon, faites-moi pas dire des affaires, bon, que je n'ai pas d'affaires à dire.
Mais vous l'avez dit, arrête, vous êtes en train de faire mal.
J'ai dit d'arrêter, j'ai dit d'arrêter.
Est-ce qu'il a arrêté?
Il a arrêté peut-être deux minutes, il dit, est-ce que vous allez parler? J'ai dit, pourquoi que je parlerais? Je n'ai rien à me reprocher, laissez-moi tranquille, là. Et là, on continue.
Il a continué à vous frapper?
Oui.
Quel est le sentiment, oui, monsieur?
Moi, j'ai les deux noms. L'un, c'est un inspecteur, c'est Lapointe.
Monsieur Lapointe, inspecteur?
Oui, et l'autre, le détective qui a frappé ma fille, c'est Poirier.
Monsieur Poirier?
Poirier.
Connaissez-vous son matricule?
Non, rien.
Comment vous avez pu savoir son nom?
Elle nous a demandé, pendant que j'étais ici, avant qu'il vienne ici, là, quand je parlais au téléphone, comment est-ce qu'il s'appelait. Là, il a donné le nom au téléphone.
Monsieur Lapointe?
Lapointe et Poirier.
Et celui qui a frappé c'est madame, Poirier. Baptiste, c'est Monsieur Poirier.
C'est ça qu'elle m'a dit, elle.
Oui.
Et Monsieur Poirier.
Si vous le voyez, vous allez le connaître.
Oh oui, c'est sûr et certain.
Oui.
C'est
quel est le sentiment, madame, que vous avez aujourd'hui vis-à-vis à la police? Avez-vous un cas judiciaire, vous, madame?
Non, jamais.
Avez-vous fait affaire avec des policiers?
Non.
Non. Mais pour vous, madame, un policier, c'est quoi? Est-ce que c'est pour vous protéger ou pour...
Ben, à ma connaissance, les policiers sont supposés de nous protéger et non de pas nous battre.
Oui.
On n'est pas des chiens, on est des humains. S'ils ne sont pas capables de nous aider, mais...
Vous l'avez dit aux policiers que j'ai le cancer généralisé, je suis malade. Vous l'avez dit ça et tout, état et tout?
Oui, oui, j'ai dit ça. Puis le policier m'a répondu. Et ça, il dit, ça ne nous dérange pas que vous soyez malade, mais que vous ne soyez pas malade. Quand on a affaire à parler quelqu'un, c'est ça qu'on fait.
Si elle s'en souvient bien, une chose qu'elle m'a dit, que lui, celui qui écrivait, puis l'autre qui l'a matraqué, supposément c'est Poirier, parce qu'il n'était pas ses lieux, je ne l'ai pas vu. L'autre aurait dit...
Il y avait deux personnes qui étaient là. Ouais. Celui qui vous frappait et l'autre il écrivait là. Prends une note là, c'est ça?
L'autre aurait dit à celui qui frappait, « Ok, arrête là, c'est assez, c'est ce qu'elle m'a dit. Arrête, c'est assez là. C'est une femme, elle est malade. Laisse faire ça, elle va parler. » C'est ça qu'elle m'a dit. Elle.
Il a dit quoi? Laisse faire ça.
Elle va parler.
Elle va parler.
Ouais. C'est ce qu'elle m'a dit.
Oui, c'est exact.
Ok,
c'est
vrai.
Madame...
Attends, on va prendre une petite pause et puis on va en reprendre. Ok, donne-moi une seconde. Okay. Voilà, chers auditrices, chers auditeurs. Donc, vous voyez, Roland, il prend son souffle parce que c'est quand même
choquant.
Non, c'est choquant. Hein, c'est vraiment choquant. Et écoutez, là, c'est pas encore le témoignage, il n'est pas encore fini. Mais quand même, je vous rappelle que nous ne sommes pas en Somalie, en Afghanistan, nous sommes au Québec. Donc ça c'est important. En entendant tout ça, Roland, comment vous voyez tout ça?
Moi, je pense que Monsieur Poirier devrait passer à la chaise électrique pour le faire avouer.
On va le saluer de là, Monsieur Poirier.
Qu'est-ce que vous en pensez? La torture pour la torture.
Ouais, ça.
Moi, j'estime qu'en plus de ça, une personne cancéreuse, une personne qui est dans les derniers milles, comme on pourrait dire, en espérant qu'il soit très long pour cette pauvre dame.
Et les policiers savent, hein,
Qu'elle est malade. Oui. Un policier a fait la réflexion. La pointe a fait la réflexion. Arrête, elle va finir par parler. Arrête. Ouais.
Roland, ça n'a pas de sens, mais c'est ça la question.
Il faudrait faire appel au droit de Genève, au traité de Genève, c'est pas possible. On fait de la torture sur des gens.
Comment on peut imaginer...
L'armée n'a pas le droit de faire ça pendant la guerre, voilà. Imaginez-vous, les policiers se permettent, en pleine paix, en pleine démocratie, de faire de la torture.
Oui.
Mais c'est
comment
grave.
On peut imaginer, vous, que le...
C'est grave. Monsieur Charest, vous qui militez pour le cancer, est-ce que vous avez trouvé la solution pour cette dame? Est-ce que c'est la façon dont vous voulez, avec l'argent que vous avez participé pour le cancer, est-ce que c'est votre façon de faire?
C'est le traitement.
Le traitement pour les cancéreux? Je m'excuse, là, mais vous devriez réagir.
Mais vous ne sentez pas, monsieur...
C'est insultant.
Excusez-moi, Roland, vous ne sentez pas comme... Déjà, quand on entend, on voit le décor un petit peu, les gens, ils sont diminués. Hein. Déjà, ils sont dans la misère, c'est une souffrance. Et plus de ça...
Le monsieur de 80 ans pleurait parce qu'il ne pouvait rien faire. Ouais. On lui interdit de rester dans son logement. On le fout dehors de son logement pour que la personne soit seule afin de pouvoir profiter d'elle. C'est dégueulasse.
Non, mais
on est dans un pays démocratique ou on est en Afghanistan avec leur système de torture qu'ils ont eu là-bas?
Mais je me demande.
C'est insultant.
Bah, écoutez, Roland, j'aimerais bien juste, on va juste faire une pause musicale parce que ça me dépasse un petit peu d'entendre ça. Surtout moi sur le lieu, j'avais surtout vu devant moi le père à 80 ans qui pleurait, qui braillait devant moi comme un enfant là, parce qu'il disait qu'il ne pouvait rien faire. Et il était comme... Ils sont impuissants, vulnérables. Et ça me fait penser à tous les victimes que j'ai rencontrées et j'ai entendu le témoignage.
Qu'est-ce que ces gens pensent après de la police? Expliquez-moi,
qu'est-ce que
les gens peuvent penser de la police qui, normalement, est là pour protéger le monde?
Et
ils viennent agresser contre une personne droguée, encore une fois.
Ouais.
Que la drogue rapporte à des gouvernements en argent noir, je suppose. C'est pour ça qu'on accepte les gens drogués et qu'on les protège plus que les pauvres gens malades et les pauvres gens âgés.
J'espère juste que M. Poirier, il est à l'écoute, donc il écoute cette émission, il écoute les témoignages de Mme Ranger, il écoute les témoignages de M. Jeté, aussi le père, de peut-être à un moment donné, il aura un moment de réflexion, de penser vraiment à son acte, à ses actes, si je peux me permettre aussi. Écoutez, chers auditrices, chers auditeurs, on va passer juste à une pause musicale pour changer un petit peu l'atmosphère et on va revenir pour écouter le reste du témoignage de Madame Ranger et Monsieur Jeté.
Sortais chez moi, devait être 9h15 au soir, la mi-décembre, à ce moment faisait plutôt froid. J'ai mis mon capuchon, puis j'ai traversé la rue Sonne, j'ai à peine aperçu l'autopatrouille qui accélérait. Une fois dans mon char, je démarre puis tourne à gauche, direct je rentre dans la rue, elle me stationnait derrière la piole. Je check dans mon rétro, qui que je vois pour la popo, de face de banane comme s'il voulait me prendre en photo. À peine le pied au sol, on me crie,
reste dans ton auto, reste dans ton auto,
mais qu'est-ce que,
reste dans ton auto.
Ok, j'ai compris, c'est toujours mieux de rester poli, mais pourrais-je me m'enquérir de vos motifs pour me coller? Écoute, on t'intercepte, on se une capuche sur la tête. Pour ma part, de rétorquer, c'est l'hiver qui fait fret. Je vais te donner un indice, présentement, il fait moins 10. Difficilement, elle acquiesce, mais bon, il fallait qu'il insiste. Yo, tout ce que je dis est vrai, si je mens à l'indice. En fait, à vrai dire, on n'a aucune idée de qui. On veut seulement t'identifier, pourquoi te sentir attaqué. Tu veux savoir pourquoi? First, tu dis que tu connais pas, mais connais-tu le voisin d'en face ou bien la petite madame d'en bas? Non. Connais-tu chaque citoyen de la ville? Non. Alors pourquoi susciterais-je plus son intérêt? Qu'est-ce qui me différencie en telle ou telle personne ici? Qu'est-ce qui dans mon apparence fait que tu me demandes mes IDs? Apparemment perplexe, il me répond je suis pas trop. Profilage, la vie n'est fake avec l'aval de ses patrons. Ici à Québec, ça fait partie de la tradition. Laisse-toi coller, ferme ta gueule, surtout faut pas poser de questions. Non, c'est pas vrai, faut que tu poses des questions. Mais reste poli, reste calme. Prends le matricule en note, prends la date, l'heure. Comme ça tu montes un dossier, mais reste calme. Bah, souvent elle s'excite, dès qu'il pense au sauton. Va demander à Bixi si ta face repose sur le béton. Pourtant une ville tranquille, donc ils n'ont pas grand chose à faire. Beaucoup de jeunes policiers sont bien trop chauds avec le fer. Tout frais sont plus du four, 22 ans et demi. Une page, une arme à feu, mais si peu d'expérience de vie. Y'a pas de gang, juste un prétexte politique. Tout ce qu'ils veulent sur le budget afin de payer les temps sucs. C'est tellement irresponsable de la part de l'état-major. Stigmatise pop et black, je leur envoie le doigt majeur. Adepte la répression, ils pensent qu'ils vont tout régler seuls. Ne leur parle pas de prévention, c'est un concept qui déboussole. Mais bon, pour être honnête, ils sont pas tous des butiniens. Faut pas généraliser, même si c'est plutôt dur d'y croire. Et ce que je te raconte là, les gens l'ont vécu par milliers. Mets ton poing dans les airs si jamais ça t'est familier. Si jamais ça t'est familier.
Alors, rebonjour madame, donc on va, madame Ranger, on va juste peut-être finaliser cette rencontre d'aujourd'hui, votre témoignage.
Okay.
Vous, le souvenir que vous avez de cette rencontre avec les deux policiers dans le... dans le centre sud, quel est le souvenir que vous gardez aujourd'hui?
Un très mauvais souvenir.
Oui.
Très mauvais souvenir. Je ne pensais jamais que les policiers étaient pour faire ça à une femme. Qu'importe une femme ou un homme, là, oui. Ça se fait même pas. Ça se fait même pas. C'est intolérable.
Et vous se rappelez réellement qu'il a dit que j'arrêterai pas quand vous avez demandé d'arrêter? Il a dit.
Oui. Il va continuer à me tabasser jusqu'à temps, comme qu'ils disent, eux autres, dans le langage, que je vais cracher le morceau, qu'ils appellent.
C'est ça ce qu'il a dit?
Cracher le morceau, ça veut dire la vérité.
C'est ça ce qu'il a dit?
Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Et une fois vous avez fui, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont vous demandé de partir après? Oui,
ouais, ils m'ont dit que je pouvais quitter. Fait que là, j'ai demandé est-ce que ce serait possible de m'appeler un taxi, s'il vous plaît.
Ils n'ont pas conduit, c'est pas eux qui ont conduit?
Non, ils n'ont pas venu me reconduire, j'ai pris un taxi.
Ils ont demandé de sortir.
Oui, j'ai demandé d'appeler un taxi. Ils m'ont appelé un taxi. Bon, le chauffeur de taxi m'a débarqué en avant. Il était très gentil. Bon, il m'a donné un coup de main pour monter les
pistes. Mais est-ce qu'ils ont vu les marques sur vous quand ils ont frappé? Est-ce qu'ils ont remarqué les marques?
Oui.
Ils savaient que vous allez à l'hôpital, vous allez voir avec ça? Vous n'avez pas demandé une ambulance?
Non.
Pourquoi vous n'avez pas demandé une ambulance?
Parce que peut-être dans l'énervement, je ne sais pas, on ne peut pas tout penser, là, dans l'énervement.
Vous paniquez comme ça?
Ah, ouais, ouais.
Vous étiez en panique, donc ouais. vous, tout ce que vous voulez, à ce moment-là, juste de partir de ce lieu-là, de quitter le lieu.
J'avais hâte d'arriver chez nous, puis j'étais tellement en colère, là. J'étais assis dans ma chaise, dans la cuisine, là, puis je bouillonnais en dedans, puis je donnais des coups de poing là, sur la chaise. Là. Bon, pourquoi qu'ils m'ont fait ça?
Oui. Et le lendemain, vous êtes allé voir un médecin ou c'est la même soirée?
Oui, mon médecin de famille. J'avais un rendez-vous chez mon médecin de famille. Il a trouvé ça bien effrayant quand il a eu ça.
Vous l'avez montré tout ça?
Oui.
Il vous l'a dit, c'est des policiers qui m'ont frappé?
Oui.
un policier, pardon. Monsieur Jeté, vous êtes le père. Roméo Jeté, c'est ça? Vous êtes le père.
C'est ça.
Quand vous êtes rendu à la maison et vous avez votre fille, elle est rentrée, vous l'avez vue dans cet état-là, qu'est-ce que vous avez
senti? J'ai paniqué, j'ai passé à pleurer.
Ouais.
Comme un enfant. Je ne pouvais jamais croire que des policiers peuvent faire ça à ma fille. Puis ils savaient les conditions de santé qu'elle avait en plus.
Ouais.
De la voir maganée comme ça. Mais le plus pire, c'est encore le lendemain, parce que le lendemain, la couleur a changé complètement.
Des coups, là.
Des coups.
Oui.
Le lendemain, elle est allée en clinique avant d'aller voir son médecin de famille, qu'on a le même tous les deux,
oui.
Parce que quand elle a des rendez-vous, je vais avec. On est trouvé un autre médecin. On a pris un rapport de ce médecin-là.
Oui.
On l'a, ça, le rapport. Le médecin de famille, ça a donné un papier pour aller passer radiographie. On a ça, les papiers de radiographie.
Oui.
Puis on a expliqué, elle a expliqué la situation, comme vous avez dit, c'est exact à 99,9%
oui.
que c'est ce qui est arrivé. Et moi, aujourd'hui, j'ai plus confiance à personne de la police.
Oui.
Il y a ça. La confiance pour la police, pour moi. Là.
Vous avez eu peur vers les policiers?
Une minute, j'ai eu peur. Je savais plus là, comment qu'est-ce que je vais faire avec ça. Il faut chercher de l'aide en quelque part. On voulait avoir de l'aide en quelque part.
Moi, je comprends pas. C'est-à-dire quand ils l'ont vu, madame, quand ils sont venus la chercher, ils ont vu qu'elle était même pas capable. Elle n'est même pas capable de se mettre debout comme il faut, là. Tu comprends? Elle est dans l'état où elle est, là. Elle est trop malade. Alors, quel est le danger que vous pouvez présenter? Nul, je comprends. Il n'y a pas de danger nul.
Le plus, c'est qu'à chaque fois, m'avoir fait quitter les lieux, puis la dernière fois, là, pourquoi? Et moi, j'ai rien à me reprocher, elle non plus, rien à me reprocher. C'est le propriétaire qui a monté ce...
Parce que le propriétaire a pris le téléphone, écoutez, la madame, elle a des attentions, peut-être elle va tuer madame. Alors on va tout faire ça. Parce que quelqu'un avec des paroles, c'est tout.
C'est ça.
Je prends le téléphone, je dis, monsieur, il va me tuer, il va me venir, il va me tabasser comme ça pour dire oui. C'est ça?
C'est ça.
Oui, c'est... J'aimerais bien, juste à la fin, si vous le souhaitez bien, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à tout le monde, à tous les auditeurs qui vous écoutent aujourd'hui?
On n'a pas fait confiance à la police.
Vous demandez aux gens, pourtant ce n'est pas tous les policiers qui sont mauvais. Hein?
Non, mais je veux dire, il y en a qui sont très rough, qu'on appelle. Là.
Ouais.
C'est très violent.
Ouais.
C'est, parce que si tu n'es pas capable de te promener là, en liberté, comme on dit, là, c'est ouais. un bon citoyen. Là. Ouais. C'est, la loi, c'est pour tout le monde. C'est pas à cause que. Il y a juste une chose que je veux dire avant de terminer. C'est pas à cause que les policiers, ils ont une bâche et un gun. Ils ont le droit de tout faire dans la vie. C'est pas même que ça fonctionne, c'est complètement faux.
Ouais. Et pour vous, monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train
de dire? Moi, j'ai aucune confiance. À voir la manière qu'elle a aujourd'hui.
C'est le traitement qu'elle a eu,
ça. C'est impensable. Il n'y a pas un être humain qui a une tête sur ses épaules pour faire des choses comme ça.
Ouais.
Puis surtout des policiers. C'est ça. C'est fini. Puis la prochaine fois qu'ils viendront en chercher, je resterai ces lieux où ils m'emmèneront avec elle.
Oui.
C'est ça.
La prochaine fois, s'il est possible, ils vont revenir ici, vous allez rester ici.
Oui. Puis s'ils ne veulent pas, ben, ils m'emmèneront avec elle. Ils mettront les menottes, une chaque, puis ils t'emmèneront tous les deux.
Vous trouvez ça tout assez regrettable, c'est ça?
Oui.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. J'aimerais bien. Pourquoi vous avez appelé MAJE, le Mouvement Action Justice? Qui vous a demandé de nous appeler?
Okay, parce que moi, j'étais à Infologie, ici,
ouais,
là,
ouais, ouais.
sur deux hormones, là. Ouais. C'est Madame Rochon qui m'a donné votre... Ouais. Elle m'a dit, Abel, ils vont t'aider énormément. Explique la situation, ils vont aller chez vous, puis ils vont t'aider. Mais là, comme j'ai dit, Madame Rochon, là, c'est sûr, là, je suis très craintif. Très craintif.
Je comprends. Vous sentez insécure?
Oui, oui. Oh,
puis très, très nerveuse.
Ouais. Merci bien, Tudor.
Ça fait plaisir.
Merci bien. Merci.
Eh bien,
voilà, chère auditrice, cher auditeur, c'était le témoignage de Madame Ronger et de Monsieur Jeté, le père de cette victime-là. Vous avez tous vu maintenant, moi je suis habitué, hein, donc vu, entendu.
Excusez-moi de vous interrompre. Oui. L'aboiement qu'on a entendu, c'est pas le chien, Monsieur Poirier, le policier. Donc, excuse, c'est un chien, ce gars-là.
Écoutez, tout ce qui est important pour vous, chers auditeurs, chers auditeurs, de voir comment cette classe, on a quand même au Québec, il y a une classe qui grandit de plus en plus, la classe vulnérable, hein, des citoyens qui sont vulnérables, qui sont impuissants devant la force de l'autorité, qui malheureusement
dépasse les limites,
largement dépasse les limites, et on tombe dans des des périodes, des époques archaïques. Hein. On revient vraiment à l'arrière, alors que normalement nous devrons avancer en avant. Nous sommes quand même un pays modèle. Hein,
théoriquement.
Théoriquement, malheureusement. J'aimerais bien, Roland, revenir avec pour commenter un petit peu tout ça. Je ne veux pas l'histoire de qu'elle reste 15 minutes, accorder 15 minutes sur son balcon, que son père, il ne peut pas assister alors qu'il est le soutien de cette fille-là qui est malade. J'ai bien dit qu'elle est malade, qu'elle a le cancer généralisé. C'est une femme, on ne sait pas quand elle peut s'éteindre. Si on peut mettre tout ça de côté, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'intervention policière. Ce qui nous préoccupe aussi, c'est l'attitude, c'est cette forme.
Il y a une question à me poser. Est-ce que le propriétaire de l'immeuble serait policier par hasard?
Oui.
C'est presque à se demander, là, s'ils ne se sont pas passé l'ordre d'agir sur cette pauvre femme contre une droguée qui est complètement fuckée, qui est complètement stupide, qui emprunte de l'argent, qui fait du chantage, qui lui emprunte et puis qu'elle ne peut plus lui prêter parce qu'elle-même a besoin de son argent, cette pauvre femme, qu'on empêche son père, qui est colocataire avec elle, dans l'appartement, d'assister ou de rester.
Exactement, Roland, parce que
et qu'on le fout dehors de chez lui. Mais qu'est-ce que c'est cette police?
Mais Roland,
est-ce que ce sont des SS que nous avons là?
Mais Roland, moi je reproche rien, ni le propriétaire, ni au voisin. Pourquoi? Parce que on peut discuter, hein, ça peut discuter l'argent. Mais moi, ce que je reviens à la charge, aux policiers, le traitement. Imaginez-vous qu'on amène quelqu'un, on ne lit pas ses droits, on l'amène dans un poste et on l'oblige.
Propriétaire, pour commencer, le propriétaire est co-responsable avec la police. La police pour avoir donné les coups, le propriétaire pour avoir déposé une plainte contre elle gratuitement, lui dire qu'elle a le droit à 15 minutes sur son balcon. Hey, minute, là, la chose louée.
Roland, tu t'éloignes, parce que moi, ce qui m'intéresse, là, une fois la personne elle est entre les mains des policiers, normalement, elle est sécurisée.
Elle devrait être sécurisée.
Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Là, c'est là.
Elle dépose la plainte et c'est elle qui est embarquée.
C'est pas embarqué ce qui me dérange non plus là. C'est la loi des matraques qui me dérange.
Et on lui met les menottes, on la matraque.
C'est le traitement.
Elle est malade, ils le savent.
Mais est-ce que, Roland,
Qu'est-ce que c'est cette façon de vivre? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Où suis-je tombé?
Voilà, c'est ça, c'est tout à fait
la comme c'est Rocco, lui, on envoie des escortes, on respecte le monsieur, alors qu'il a débité un Chinois en petits morceaux.
Parce que je suis
certain. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre monde.
Oui, mais Roland.
Il est temps qu'on commence à sonner les cloches.
Parce que Roland, je suis certain que plusieurs, je dirais bien plusieurs, en ce moment-là, ils se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe?
Foutez-moi ces policiers dehors, immédiatement, sans pension. Voyons donc, c'est des assassins qu'on a. C'est des maniaques. C'est des malades mentaux. On devrait leur faire passer des tests de maladie mentale à ces gens-là, frapper sur une personne cancéreuse qui dépose des plaintes parce que la voisine est une droguée qui l'enchale, qui la perturbe. On vient, on fout le bonhomme dehors alors qu'il est co-locataire avec sa fille. Et on embarque la fille avec des menottes au poste de police et là on la matraque jusqu'à ce qu'elle avoue quelque chose qu'elle n'a pas fait.
Elle a vu, elle n'a pas fait, c'est la question, elle n'est pas là. Elle n'était pas obligée de parler.
Mais non, mais on ne lui cite pas ses droits, on ne lui donne pas le droit d'avoir un avocat, on la bastonne à coup de matraque. Elle a des bleus, elle ne peut plus marcher, le chauffeur de taxi est obligé de la raccompagner chez elle, à l'escalier ou autre. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre pays, là. Hey, monsieur Charest, c'est ça que vous nous promettez au prochain message et aux prochaines élections? Voyons, est-ce qu'on doit voter pour un connard pareil, crime qui laisse faire des affaires pareilles?
Parce que c'est vrai, moi je suis un petit peu d'accord avec vous quand vous êtes un petit peu révolté, parce que quand même, il est responsable, c'est la politique, parce que si aujourd'hui les policiers se permettent à franchir cette ligne-là, la ligne rouge, c'est parce que quelque part, ils se sont un petit peu délaissés à eux-mêmes,
on a changé complètement notre système de police. Notre police avant n'avait pas le droit d'avoir deux jobs, ils étaient assez payés pour pouvoir se permettre d'avoir qu'un seul travail. Aujourd'hui, ils ont le droit d'investir. Ils ont le droit, mais pas leurs femmes, eux. et automatiquement, ils se servent de la voiture de police pour aller collecter leur loyer, ils se servent de la voiture de police pour aller acheter 30 pizzas d'un seul coup, ils se servent... On a maintenant les outils qui sont à leur disposition, c'est leur voiture, c'est leur... Ils ont des primes de risque, les policiers.
Non, mais Roland, tout ça...
Non, mais écoutez, vous êtes... le système commence à être vraiment dégueulasse.
Oh, je comprends, mais tu t'éloignes toujours, là. J'aimerais bien, vous revenez.
J'additionne toutes les causes, et puis je commence
à... je reviens toujours à cette question-là. Le policier qui a pris la matraque et qui a...
Monsieur Poirier.
Le
lâche.
Qui a frappé la dame. Le geste, là, le geste lui-même, là, si arriver à se permettre de frapper une dame dans un poste de police, hein, j'imagine. Hein,
est-ce qu'il y a une caméra qui filme pendant qu'il interroge?
Là, c'est une voix de fée grave.
Et puis l'autre policier ne dépose pas une plainte contre son collègue. Il y a de l'intimidation. Il n'y a pas que dans les écoles qu'il y a de l'intimidation.
Dénonciation.
Dans la police aussi.
Dénonciation.
Eh oui, il devrait être dénoncé. On n'a pas le droit de frapper quelqu'un comme ça. La police n'a pas le droit de se faire justice elle-même. La police doit faire le constat, donner une infraction et mettre à la cour si une personne mérite de passer à la cour.
Mais parce qu'il a pété les pédales ou quoi, ce gars-là?
Mais c'est un malade mental, c'est tout. Est-ce qu'il se drogue, ce gars-là, par hasard? Il comprend mieux les drogués que les personnes malades et âgées?
Donc vous êtes...
C'est ça qu'il faut commencer à regarder, là.
C'est quand même dur. Hein. Écoutez, là, je pense que...
Moi, je suis soulevé, moi, je suis révolté. Révolté complètement.
Écoutez,
j'estime qu'il y a...
Roland, heureusement, vous n'étiez pas avec moi sur le lieu, parce que si vous avez vu le cas de la dame qui était malade, si vous avez vu vraiment l'attitude aussi, le monsieur de 80 ans qui est impuissant, qui pleurait. Écoutez, cher auditeur, voilà, donc malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Vous avez tous... vu comment l'abus du pouvoir dérange, blesse, si vous voulez, dégrade la qualité et la dignité de la personne. Combien nous avons besoin d'un changement radical. Le citoyen, comme je l'avais dit, souffre et souffre énormément. Donc je profite pour remercier bien sûr mon collègue Roland Cazès de sa participation comme d'habitude. Et en même temps, je remercie aussi également Madame Suzanne Charland. Est-ce que c'est ça, Madame Charland? Madame Charland, pour avoir veillé sur le son de cette émission.
Madame
Charland. Oh my God, j'allais tout. Merci. Merci aussi à vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'avoir suivi ce témoignage. Et je vous donnerai rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. Sur ça, je vous laisse. Au revoir.
The wall, talking all that jive.
They got me backed up against the wall,
just trying to stay alive.
They got me backed up against the wall,
can't spin back it all.
They got me backed up against the wall.
Oh, Lord.
Yo, yo. With my boombox blasting, out of nowhere cops pull out two blocks blasting. Trace my face with biometrics, afraid I could grenade the parade like Boy Chevins. Come on, pledging linen slash John Lennon slash soft melon needs all so minted authentic as a lost order fact. That's why my name in capital letters is all they have. Treat us like animals, stole all human citizenship. Serrano blueprints and fingerprints. Cause when you're born, they sell you phenomenally. Your mind prison, so they're not thinning when time's ticking. Like a hostage chained, when they try to frame us like earthquakes and climate change. But from the weakest link, I broke them up. Now I'm under investigation, cause I know too much. And that's real.
Against the wall,
talking all that jive.
They got me backed up against the wall,
just trying to stay alive.
They got me backed up against the wall.
Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, minuit 30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Waste, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matins, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Waste, tous les vendredis matins, 8 à 9.
L'Auto-Québec présente la 26e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 10 au 22 juillet. Venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde. En concert d'ouverture, les incontournables Niarwa Diffusion, le très attendu Prince du Rail Fodel et un fabuleux plateau d'artistes engagés, Madagascar Wake Up. Plus de 90 concerts et activités au programme. Pour plus d'infos, festivalnuitdafrique.com.
Salsa, reggae, kamba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip hop, hagamofi, mala, hango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.